9h15, 10h. La matinale sur l'actualité de la création contemporaine par Victoire Lebars.
Il est 9h15 en direct de Dur Radio. Bonjour tout le monde. À l'origine du festival et de la publication Printing Fashion, espace de discussion qui réunit des acteurs, actrices de la mode autour de publications imprimées et digitales, la 6e édition s'est déroulée les 28 et 29 mars dernier. Artiste, il est aussi rédacteur, notamment rédacteur en chef du magazine Revue, et collabore à plusieurs publications et projets. Bonjour Justin Morin, comment vas-tu ?
Bonjour, je vais très bien. Merci pour cette invitation.
Artiste représenté notamment à l'international et rédacteur, entre autres donc dans l'univers de la mode et de l'imprimé, tu déploies un éventail de compétences et d'initiatives éclectiques. Alors comment ça commence ? Tu peux nous raconter ton parcours depuis cette fin des années 70 et puis les Beaux-Arts de Lorraine jusqu'à ton premier job de journaliste que tu commences un peu par hasard ?
Alors effectivement, je suis né en Lorraine et j'aime beaucoup dire que je suis né à la frontière de plusieurs pays et de plusieurs périodes, puisque je suis né à une semaine des années 80, le dernier Noël de la décennie 70. Donc un pied dans les années 70, un pied dans les années 80. Et puis je suis né aussi à la frontière de la France, du Luxembourg et de la Belgique. Et aujourd'hui, mon travail se situe à la frontière de plusieurs pratiques, l'art, la mode, le design et évidemment la rédaction. Quand j'étais étudiant aux Beaux-Arts de Metz, qui est une petite école où j'ai eu la chance d'avoir beaucoup de liberté, j'ai commencé un peu par hasard à travailler en tant que journaliste dans le supplément culturel du Républicain Lorrain. À l'époque, les rédacteurs en chef recherchaient quelqu'un qui puisse écrire à la fois sur l'art, évidemment, mais aussi la musique, le théâtre. Et donc, un étudiant en école d'art, c'était la parfaite personne pour ce job-là. Moi, j'avais jamais vraiment écrit avant, mais j'ai toujours aimé la presse. Je me souviens que enfant, j'achetais des magazines de jeux vidéo, puisqu'on parle des années 80 où évidemment il n'y avait pas encore d'internet. Et donc, pour pouvoir découvrir un peu les nouveautés culturelles, en l'occurrence les jeux vidéo, on allait au bureau de tabac du coin et puis on achetait des magazines. Et ça me fascinait, en fait, de voir la mise en page de ces objets qui aujourd'hui n'existent plus vraiment et qui étaient vraiment des objets graphiques très singuliers avec plein de petites vignettes, des typographies complètement folles. Moi, je trouvais ça vraiment incroyable et je me souviens, j'ai retrouvé chez mes parents il y a quelques années des débuts de fanzines, en fait, où je faisais mes petites maquettes sur des papiers A4, je faisais des photocopies, des collages. Donc la presse, c'est quelque chose qui m'a toujours intéressé. Et donc, j'ai commencé à pratiquer en tant que pigiste pendant mes années d'études. Et puis, une fois diplômé, je n'ai pas exercé directement en tant qu'artiste, puisque j'avais évidemment beaucoup de difficultés à montrer mon travail. Et j'ai surtout continué à écrire pour diverses publications. Et ça m'a permis, en fait, de comprendre mieux le monde qui m'entourait, en particulier le monde culturel et le monde de l'art.
Tu te rappelles du premier article que tu as écrit ?
Alors, je ne me souviens pas exactement du premier article que j'ai écrit, mais je me souviens d'une journée au Républicain Lorrain où, à l'époque, j'écrivais 5 articles par jour. Mais il faut dire que c'était la plupart du temps des communiqués de presse qui étaient réécrits, donc c'était vraiment pas du grand journalisme. Et puis, des critiques et des annonces de spectacles et des interviews. Et ce jour-là, j'ai annoncé un spectacle de Lara Fabian au Galaxy d'Amnéville et j'avais rencontré la directrice du FRAC Lorraine qui était Béatrice Josse à l'époque et c'était super en fait. J'aimais beaucoup ce grand écart entre des choses très populaires et puis des choses beaucoup plus pointues. Et ça, c'est vraiment ce que la presse quotidienne régionale m'a appris. Mmh.
Ta première pratique, c'est artiste et puis tu as revêti au cours de ton expérience différents habits si je peux dire comme ça, ceux du rédacteur, de l'enseignant, du set designer. Ton travail semble se trouver au croisement de disciplines qui ne sont pas si éloignées, cohabitent et créent du lien. Ton emploi du temps, tu l'organises comment pour que tout trouve sa place et que, est-ce que ces expériences profitent d'une certaine forme de porosité ?
Alors, je pense que ça profite d'une certaine forme de porosité. L'emploi du temps, c'est vraiment le nerf de la guerre, le nerf du problème, parce que c'est problématique. Je suis donc rédacteur en chef de revue, qui est un semestriel que nous avons fondé avec deux amis et collègues, Simon Rivero, qui est le directeur de la publication, et Thibaut Metz, qui est le directeur artistique. Un semestriel, ça nécessite de la préparation. Le travail n'est pas intense, puisqu'on a le temps pour le faire. Ce qui est difficile, c'est de caler les rencontres, les entretiens, courir après les attachés de presse, caler ces entretiens. Donc ça demande plutôt un travail sur le moyen terme, parfois le long terme, puisqu'il m'arrive de courir après des invités pour le magazine, parfois pendant un an, voire deux ans, voire plus. Et quand les invités témoignent d'une forme d'intérêt, je continue, en fait, je lâche pas. Si on me dit non, ben en fait, j'abandonne et je passe à un autre invité. Si on me dit oui, mais je suis pas disponible, alors je vais trouver. Puis une des particularités de revue aussi, c'est qu'on essaie de faire des entretiens croisés entre des personnalités qui parfois ne se connaissent pas. Et ça demande aussi beaucoup de temps de coordonner deux agendas en plus du mien. Donc revue, c'est quelque chose qui se fait vraiment sur le côté. Mon activité d'enseignant à Parsons Paris dans le département Fashion Studies, c'est quelque chose que je fais de manière hebdomadaire. La grande chance de l'enseignant, c'est qu'il y a des vacances scolaires. Donc du coup, pendant les vacances scolaires, j'essaye de caler mes expositions à l'étranger. Donc c'est souvent en décembre ou à partir du mois de juin, entre juin et septembre, qui sont les périodes où je n'enseigne pas. Et puis ensuite, il y a la pratique d'atelier qui, là, est plutôt quotidienne. Et parfois, en fait, je n'arrive pas à aller travailler à l'atelier. En tout cas, il faut que je me mette des plages pour travailler. Mais ce que j'ai découvert avec ces différentes activités, c'est qu'effectivement, elles rejaillissent les unes sur les autres, en fait. C'est-à-dire que quand j'interviewe quelqu'un pour revue, souvent, ça me motive, ça m'apprend des choses que j'ai envie de réexploiter. En tout cas, ça m'apporte une énergie, parce que revue, c'est souvent, moi, en tant que rédacteur en chef, l'envie de partager une certaine forme d'admiration pour les personnes qui sont dans ce magazine. On est une publication indépendante, donc c'est vraiment moi et Simon et Thibaut qui décidons des invités. Et il est absolument primordial pour moi que ce soit des personnes que je désire faire découvrir à nos lecteurs. Donc ça part toujours d'une vraie envie.
Ouais, on va revenir sur revue un petit peu plus tard, enfin sur les détails justement. Mm-hmm. Qui constitue la revue. Aujourd'hui, on va focus donc un peu plus la discussion sur Printing Fashion et ton travail, entre autres, de rédacteur en chef de Revue Magazine. Comme ça a été dit en intro, il s'est déroulé donc très récemment la dernière édition du festival Printing Fashion, qui est un projet que tu réalises dans le cadre de ton travail d'enseignant à l'école Parsons à Paris. Le festival est un moment aussi où naissent les discussions qui deviendront après la matière principale de la publication imprimée. Alors, il débute comment ce projet de conversation ?
Alors, c'est un projet qui a été co-créé par Marco Pecorari, qui est le directeur du département Fashion Studies, études de mode en français. Parsons étant une école américaine, nos cours se font en anglais. Et c'est vrai que les études de mode, c'est une discipline qu'on connaît assez peu dans le milieu académique en France, puisque c'est pas vraiment répandu. Ça l'est beaucoup plus aux États-Unis. Donc les fashion studies, c'est un domaine dans lequel on apprend à travers un regard sociologique, historique, culturel, artistique, politique, ce que veut dire la mode. On forme des journalistes, on forme des commissaires d'exposition, des archivistes, on forme des gens qui vont réfléchir la mode. Et ça, c'est vraiment important de le dire. Dans mon cours, le cours du printemps, j'initie mes étudiants justement au monde de la mode à travers le prisme du magazine, puisque pour moi, la structure même du magazine représente un petit peu l'arborescence qu'on peut retrouver dans les sociétés de mode, avec le directeur artistique, le directeur de la création, les stylistes, toutes des choses en fait hiérarchiques qu'on peut aussi transposer dans le cadre du magazine. Dans mon cours, on invite différents intervenants tout au long du semestre. Et on s'est dit avec Marco que c'était dommage de ne pas partager en fait toutes ces discussions, puisqu'en fait, on invite des gens du milieu, des professionnels qui partagent leur expérience auprès de nos étudiants. Et on s'est rendu compte qu'en fait, on pouvait ouvrir ces discussions à un plus grand nombre. Et surtout, mon cours, en fait, c'est un outil pédagogique dans la mesure où Printing Fashion est un séminaire, comme tu l'as expliqué. Pendant 2 jours, on reçoit différentes personnes, de l'imprimeur au directeur artistique, en passant par le journaliste ou l'historien. Et toute cette matière, en fait, devient un magazine qui est réalisé par mes étudiants, entre autres. Donc, ça leur permet aussi de se confronter à des questions d'écriture, puisqu'ils se retrouvent aussi dans la position d'intervieweur. De rédacteurs et d'éditeurs puisqu'ils doivent monter leur sujet, de graphistes puisqu'ils doivent aussi appréhender la maquette, de photographes puisqu'ils réalisent des images. Donc en fait, ils essayent évidemment à leur niveau de comprendre comment un magazine est fait et la somme de travail et de compétences que ça requiert.
Et quel est le rapport des étudiants justement à... Est-ce que c'est aussi une manière de... Donc d'être à plusieurs endroits en même temps, de prendre en charge plusieurs prérogatives qui leur permettent aussi de développer des compétences ou en tout cas de choisir peut-être des directions de travail qu'ils n'avaient pas envisagées.
Tout à fait. Nos étudiants sont en master. Moi, je les rencontre en première année et ils viennent pour la plupart de l'étranger et n'ont pas forcément une connaissance très approfondie du milieu de la mode. En fait, ils ont des préconceptions. Et effectivement, déjà, quand on leur met un magazine entre les mains, c'est un objet, contrairement aux personnes de ma génération, qu'ils ne connaissent pas, qu'ils ne maîtrisent pas. Ils n'arrivent pas à décrypter les liens entre les annonceurs et le contenu rédactionnel, le prix d'un magazine, la périodicité. Donc en fait, il faut vraiment leur expliquer toutes ces choses-là, les guider, puisque c'est des jeunes qui ont entre 20 et 25 ans, qui sont vraiment plutôt issus d'une culture digitale et qui découvrent ces métiers. Et parfois, certains d'entre eux, après leur passage à Parsons, décident vraiment de se spécialiser, soit de devenir journaliste, où on a dans le passé quelques étudiants qui ont fondé leur propre magazine, ce qui est vraiment une fierté aujourd'hui, où ce monde, le monde de l'édition, est vraiment un monde difficile. C'est une chose qu'il faut souligner.
Mmh. Ouais, justement, c'est, il me semble, dans le premier numéro de Printing Fashion, il y a dans l'édito donc Marco Pecorari et toi-même, il me semble que donc la mode, ce n'est pas que l'événement, c'est ce qui est écrit et c'est aussi les phénomènes socioculturels et puis la relation à la presse imprimée dont on dit toujours qu'elle va disparaître mais ne cesse de se multiplier. Tu l'expliques comment l'attachement au support imprimé, quel est son rôle ?
En fait, on se rend compte dans tous les domaines culturels et pas uniquement l'impression que le support physique est vraiment très important. On l'a constaté il y a quelques années avec le retour du vinyle pour la musique qui est très fort, mais il y a aussi d'autres formes autour de l'objet physique. Moi, je pense que la presse de mode a encore un très bel avenir devant elle. On constate aujourd'hui qu'il y a énormément de librairies en ligne ou physiques qui vendent des titres vintage. Et c'est ça aussi qui est assez intéressant, c'est que maintenant, un titre qui a 20 ans est considéré comme vintage. Il se trouve que la culture digitale, c'est quelque chose d'incroyable pour accéder à beaucoup d'informations, mais que les algorithmes aujourd'hui réduisent l'accès à ces informations et que les gens ne savent pas forcément chercher.
Tu penses qu'avec le digital, le vintage va disparaître ?
la pluralité du vintage va certainement rétrécir. C'est-à-dire que aujourd'hui, Google Images, c'est un outil que j'utilise. Mais quand on fait une recherche, on va souvent arriver au même résultat. Et là où un magazine va pouvoir donner beaucoup plus, en fait, si on va chercher une série de photos de Richard Avedon publiées dans Vogue America, on va peut-être tomber sur une image qui sera publiée sur Pinterest. Si on a le magazine entre les mains, on va se rendre compte que cette image est ici d'un éditorial constitué de 16 images. Et c'est pour ça, aujourd'hui, que les gens recherchent ces magazines. Après, il y a un phénomène, c'est que ces objets deviennent de plus en plus prisés par les gens de l'industrie. Donc, il y a un véritable intérêt pour les gens de la mode et de l'art autour de ces magazines. Le vrai défi pour la presse aujourd'hui, c'est de redonner un intérêt à des lecteurs qui ne sont pas de l'industrie, à nos parents, à nos frères, à nos sœurs, à des gens qui ne sont pas dans la culture, qui puissent se dire « Ah tiens, pourquoi dépenser 5 euros, 10 euros, 15 euros dans un magazine à quoi ça sert en fait ?»
Oui, puis c'est des choses qui restent. Quoi. Enfin, on le voit avec nos téléphones et les milliers d'images qu'on a à l'intérieur, qu'on finalement on regarde jamais, enfin, on a du mal même à retrouver. Là, c'est un objet qui est voué à être dans un endroit particulier, que ce soit une bibliothèque ou que sais-je, mais voilà, c'est des objets qui restent. D'ailleurs, tu parles du magazine comme d'une version miniature de ce qu'est le milieu de la mode. Il me semble que j'ai lu ça.
Oui.
Ou que tu me l'as dit quand on s'est rencontrés avant.
Tout à fait. Pour moi, en fait, le milieu de la mode, quand on n'en fait pas partie, c'est quelque chose d'extrêmement impressionnant, qui est hiérarchisé, et on ne rentre pas dans ce milieu comme ça, ce qui est vraiment dommage. C'est un peu la même chose pour le milieu de la presse. Et il y a une des choses que je regrette avec ma position actuelle, c'est qu'on est très souvent sollicité par des photographes ou même par des journalistes. Et malheureusement, puisqu'on est une toute petite structure indépendante, on ne peut pas répondre à toutes ces sollicitations. Donc c'est très difficile de rentrer dans ce milieu et je le déplore. Et c'est vrai que quand on regarde comment un magazine est structuré, comme j'expliquais tout à l'heure, tout en haut de la pyramide, on a le directeur de la création, qui est un petit peu l'équivalent de la même chose dans le milieu de la mode avec le directeur artistique, le styliste star aujourd'hui. Puis en dessous, on a le rédacteur en chef, qui est la personne qui va superviser, qui va un peu être le lien. Et puis ensuite, il y a les contributeurs qui peuvent être assimilés aux stylistes à qui on va donner différents rôles. Dans les grandes maisons de mode, on a un directeur d'atelier pour le costume, pour le flou. Dans les magazines, on peut avoir un rédacteur spécialisé dans la culture, dans la mode, dans le cinéma. Donc en fait, il y a un système un peu d'arborescence qui est très proche. Et puis au-delà de ce mimétisme structurel, c'est surtout les relations, en fait, la manière dont ça se passe. C'est un milieu, la presse et la mode, qui est extrêmement relationnel, en fait. Donc, quand on me demande comment débuter, je dis toujours qu'il faut commencer par rencontrer les gens, en fait. Et c'est pour ça que Printing Fashion est important en tant que festival, puisque c'est un moment où on peut rencontrer ces personnes. Et puis, il faut vraiment s'armer de patience, commencer à construire son réseau, pour pouvoir publier son premier article, son deuxième, intégrer une rédaction, et ainsi de suite. Intégrer une rédaction, aujourd'hui, c'est un peu c'est un rêve qui est en train un peu de mourir. Il n'y a plus beaucoup de rédactions aujourd'hui qui emploient des journalistes. Mais ça, c'est un autre débat.
Et est-ce que, en faisant printing, fashion et revue même, est-ce que ce n'est pas aussi une critique ou une réponse à quelque chose, enfin, de plus, je sais pas, institutionnel ou...
En tout cas, c'est une manière de désamorcer, désamorcer ces blocages, en fait, ces freins, ces plafonds de verre, parce qu'il y a vraiment cette sensation, c'est pas vraiment un plafond, c'est plus une vitre, on a envie de passer à travers et on ne peut pas. Mais comme je le disais, pour revue, même si on est une toute petite structure, nous-mêmes, on a du mal, en fait, on aimerait pouvoir accueillir plus de photographes. En réalité, on se rend compte que, photographes ou journalistes, qu'il y a beaucoup de personnes qui souhaitent travailler dans ce milieu. Donc, même s'il est, entre guillemets, dans une forme de déclin qui n'arrive pas, puisque c'est une des choses qu'on voit dans Printing Fashion, tous les ans, il y a des dizaines de nouveaux titres à l'international qui émergent. Donc, même s'il y a ce déclin, ce faux déclin, les gens sont toujours attirés par le médium du papier. Parce que, comme tu l'as dit, c'est une trace, c'est une vraie fierté de pouvoir publier son travail photographique ou même de rencontrer des artistes et de pouvoir publier des interviews. C'est une chance, en fait.
Et puis, il y a aussi les réseaux sociaux qui interviennent beaucoup aussi dans la publication. Enfin, parce que il me semble que Marco dit à un moment que ça, le magazine de mode devient aussi quelque part un portfolio, un moyen de montrer son travail et pourquoi pas de trouver un job.
Tout à fait. En fait, ce que j'explique à mes étudiants, c'est que la plupart des personnes, le grand public ne sait pas que les photographes qui publient leurs photos dans les magazines de mode financent eux-mêmes les éditoriaux. En fait, un photographe va devoir dépenser beaucoup d'argent pour présenter son travail. Et ça, c'est quelque chose qui semble aberrant, mais qui est une forme de réalité du milieu de la presse. Par contre, une fois que ces photos sont publiées, elles permettent d'obtenir une visibilité auprès des marques et d'obtenir des campagnes publicitaires. Donc c'est vraiment en ça que c'est un portfolio. Sans première publication, les photographes vont avoir du mal à décrocher des contrats. Un photographe aussi ne travaille pas seul, il travaille avec un styliste, avec un maquilleur, avec un coiffeur. Et les éditos permettent au photographe de trouver l'équipe avec laquelle il sera le plus performant. Donc c'est aussi une manière de constituer sa famille artistique en fait, et de pouvoir aller voir la marque en disant « Vous me voulez pour cette campagne, moi je travaille avec ces personnes parce qu'ensemble on fait du bon travail ». Ça, c'est des choses qu'on ne sait pas quand on n'est pas quand on feuillette un magazine, que ce soit Vogue, Elle ou Marie Claire ou des magazines plus pointus comme Self-Service ou Purple. Mmh. Mais c'est comme ça que le milieu fonctionne.
Mais justement, tu cites Purple Magazine ou Self-Service. Il y a beaucoup de magazines de mode qui ont émergé, je pense, début des années 90, comme c'est le cas pour Purple, par exemple, et qui ont été aussi un vrai support pour une communauté, donc qui ont rassemblé une communauté, une énergie. Est-ce que c'était aussi ça l'idée de revue, de printing, de cette idée de la communauté ?
Je pense que pour Printing Fashion, oui, il y avait vraiment l'envie de la part de Marco et de moi-même d'ouvrir la discussion à l'international. Comme j'expliquais, Parsons, c'est une école américaine. On est basé à Paris. On a des intervenants qui viennent de l'étranger. Donc, on s'est rendu compte aussi avec KD Press, qui est notre distributeur et éditeur, que la question de la presse, elle est vraiment internationale. Et les points de vue culturels là-dessus sont vraiment intéressants. Donc, Printing Fashion, c'est deux jours pendant lesquels on peut aussi se retrouver. La pandémie nous a permis, il y a quelques années, de faire nos éditions via Zoom et donc d'avoir des invités qui sont basés à New York, qui sont basés parfois en Asie, parfois dans les pays scandinaves. Donc ça, c'est vraiment très intéressant. Et vraiment, Printing Fashion, c'est quelque chose, on se rend compte, qui concerne les gens de l'industrie et puis les étudiants, en fait, les gens qui veulent découvrir ce milieu. Là où Revue, c'est un projet qui est beaucoup plus personnel. Pour moi, je le considère un peu comme un projet curatorial. On aura peut-être l'occasion d'en parler un peu plus tard. Mais c'est plus comme un carnet de bord des choses qu'on aime, en fait. Et on essaye de présenter à notre public ces artistes-là. Et surtout de leur faire découvrir d'autres artistes. C'est aussi ça le challenge d'un rédacteur en chef, c'est comment on construit un sommaire.
Oui, puis c'est ça. Moi, je dis toujours... parce que pendant un moment, j'avais l'impression de voir tout le temps les mêmes contributeurs dans les magazines qui avaient déjà une certaine forme de notoriété. Donc, probablement aussi que le lecteur avait un intérêt supérieur pour ces magazines. Mais pour moi, il me semble que dans la définition quand même au départ du magazine, et notamment du magazine de mode, avec la question de la direction artistique aussi du photographe, c'était aussi faire émerger et être à l'origine de nouveaux talents, enfin de la découverte de nouveaux talents, ce que je trouve qu'il s'est un peu perdu, mais c'est probablement dû à des questions économiques aussi.
C'est vrai. En tout cas, c'est aussi, comme tu le disais, la question économique est complexe, en fait, puisque aujourd'hui, produire un magazine, c'est un réel investissement financier. Donc, quand on donne... plusieurs pages à un photographe, on ne sait jamais ce qui va résulter de la commande. Donc il y a toujours un point d'interrogation. Donc on ne peut pas prendre que des risques. Maintenant, c'est vrai que Revue est connue pour, grâce au choix de Simon et de Thibault, mettre en avant des photographes émergents. On citait tout à l'heure Purple ou Self Service. En fait, c'est des institutions aujourd'hui dans le paysage français. Et nous, quand on a décidé de créer Revue, c'est que, en fait, on se rendait compte qu'il y avait effectivement des grands noms en France, des magazines qui émergeaient à l'étranger, dans les pays anglo-saxons, et pas forcément beaucoup de nouveaux titres en France. Alors maintenant, Revue, on va publier le 17e numéro, donc ça fait un peu plus de 8 ans qu'on existe. Donc on est aussi un peu, même si on est un magazine indépendant et de niche, on fait partie aussi du paysage, parce que 8 ans, c'est pas rien aujourd'hui. Mais on essaie quand même de mettre en avant des photographes qu'on n'a pas forcément vus ailleurs.
Donc justement, Revue, c'est un projet qu'on te propose de rejoindre. Il me semble que c'est Simon Rivero, donc le directeur de la publication, comme tu disais, et Thibaut Metz, directeur artistique, qui te contacte pour rejoindre l'équipe en tant que rédacteur en chef. D'ailleurs, l'équipe n'a pas beaucoup bougé, il me semble, depuis le début du magazine. Le premier numéro, printemps-été 2016. Tu as quelle idée en tête quand tu commences le magazine ?
En fait, moi, j'étais ravi par cette proposition qui m'a été faite par mes deux camarades. En fait, moi, j'avais vraiment envie de faire se rencontrer les disciplines parce que la mode, c'est vraiment un sujet et un domaine qui me passionne. En fait, je trouve que c'est un milieu, une industrie qui est vraiment fascinante d'un point de vue sociologique et anthropologique. Créatif, évidemment. Et l'art, c'est un peu la même chose. Évidemment, il y a des relations entre les deux industries, mais il y a quand même une forme de snobisme, c'est-à-dire que les gens de l'art ne vont pas toujours regarder la mode avec sérieux, et là où les gens de la mode vont regarder l'art avec un peu d'envie. En fait, moi, j'avais envie que les deux milieux puissent se rencontrer, et j'avais envie aussi qu'on puisse parler d'art et de culture au sens large. Donc, j'avais envie qu'on puisse parler de cinéma, parler de musique, parler de danse, parler d'architecture, parler de cuisine aussi, de design, et d'avoir des entretiens, des textes un peu poussés qui va un peu à l'encontre du snacking, cette forme d'écriture assez courte qu'on retrouve dans la presse mensuelle. Puisque nous sommes un magazine semestriel, notre parti pris, c'était d'avoir des articles un peu denses qui puissent aller de l'anecdote à l'analyse un peu plus construite. Parce que je trouve que les deux points de vue sont vraiment intéressants et permettent de nourrir la réflexion. Et puis aussi d'avoir un contenu qui soit intemporel. On ne cherche pas à parler de l'actualité. Et c'est souvent une des choses qui est un peu complexe pour moi en tant qu'adacteur en chef. C'est que la plupart des artistes que je contacte me disent, artistes au sens large, hein, que ce soit des réalisateurs ou des plasticiens, « Ah mais j'ai pas d'actualité, donc je sais pas... quoi dire ? » En fait, c'est ça qui m'intéresse. Moi, j'ai pas envie qu'on parle du nouveau film, j'ai plutôt envie qu'on regarde en arrière, qu'on regarde le futur, mais qu'on prenne le temps de parler d'autre chose que de la promotion d'un nouveau disque ou d'une nouvelle exposition.
On va écouter un extrait de la BO du film Dress to Kill de Brian De Palma. Alors, j'ai pas vu le film, mais on parlera après de la scène qui se déroule dans un musée. Donc comme je disais, j'ai pas vu le film, mais la scène se déroule dans un musée. Il est très beau ce moment, puisque j'ai pu quand même regarder l'extrait. Donc ce moment de poursuite qui se termine par un baiser à bord d'un taxi new-yorkais. Tu veux nous dire un mot à ce propos, puisque Brian De Palma, tu aimerais justement pouvoir l'interviewer dans le cadre de Revue.
Ouais, Brian De Palma, je pense que c'est l'un de mes réalisateurs favoris. Dress to Kill, c'est un film qui est génial, qui... évoque Hitchcock, évidemment, puisque Brian De Palma, c'est le roi des références et des mises en abîme. Et ce titre de Pino Donaggio, moi, me transporte. Je trouvais très beau cette scène de rencontre et de drague dans un musée où au détour d'un mouvement de caméra, on voit une toile d'Alex Katz et d'autres grands artistes américains. Donc la musique de film, en fait, c'est quelque chose que j'écoute beaucoup quand je suis à l'atelier parce que ça m'inspire énormément. Et les bandes-sons de Brian De Palma, c'est vraiment le best.
Je crois que c'est Ezra Petronio, justement, on en parlait tout à l'heure, le fondateur de Self Service Magazine, qui dit que la qualité d'un magazine se mesure à celle de ses publicités. Il avait d'ailleurs édité un numéro qui réunissait les publicités de 1994 à 2009 parues dans Self Service. Il y a très peu de publicités au sein du magazine Revue. Mm-hmm. Dès le départ, c'est un choix aussi de rester autonome et indépendant.
Alors, la réalité, c'est que la publicité aujourd'hui dans le monde de la presse, c'est vraiment... un sujet problématique à cause du digital. Beaucoup de maisons ont placé leur budget sur d'autres types de fonctionnement. Donc, avant, on parlait des sites internet, mais c'était pas forcément la chose la plus onéreuse. Maintenant, c'est plutôt les influenceurs, les défilés. Nous, à Revue, on a quelques annonceurs qui nous sont fidèles. On les remercie parce que c'est grâce à eux que le magazine existe. On ne serait pas contre avoir plus de support pour pouvoir proposer plus de contenu également. Il se trouve que Ezra, que nous avons reçu donc dans Printing Fashion, quand il évoque la presse, il évoque aussi une décennie, deux décennies qui n'existent plus. Aujourd'hui, c'est très difficile d'obtenir de la presse, de la publicité dans la presse, et puis aussi des choses qui ne sont pas forcément dites, mais que certains annonceurs se retrouvent dans les magazines sans forcément... payer ses pages. Il y a différents types de supports, en fait, qui ne sont pas forcément économiques. Donc, c'est un écosystème qui est très mouvant et très compliqué.
C'est vrai que le magazine de mode, dans l'esprit collectif, est plus voué à être regardé qu'à être lu. Pourtant, aussi bien dans printing que dans revue, il y a un attachement au texte et aux mots. Il me semble au départ, je ne sais plus si c'est toi ou tes associés dans revue qui ont dit que plus personne ne lit. C'est toi ?
C'est moi,
ça,
ouais,
c'est toi,
moi.
Tu disais que plus personne ne lisait et que c'était plus important de faire du texte. Et pourtant, tes associés avaient un intérêt pour le texte et...
En fait, quand Simon et Thibault m'ont demandé de rejoindre Revue en tant que rédacteur en chef, j'étais évidemment honoré, flatté, excité par la proposition, mais je leur ai dit, vous savez, aujourd'hui, il y a très peu de personnes qui lisent les textes. Moi, j'en fais partie, mais j'ai l'impression d'être une exception. Donc, faire du texte, c'est se rajouter du problème. Est-ce que vous ne voulez pas faire revue sans moi et faire juste un magazine d'images? Et pour eux, c'était important d'avoir ces textes qui m'a évidemment réjoui comme réponse. Parce que c'est à la fois un langage graphique qui est important au sein d'une mise en page, d'une maquette de magazine. Tout d'un coup, un article, ça va faire une respiration entre une série d'images. Et puis aussi, au-delà de l'aspect purement visuel, pour eux, c'était important de faire de revue une publication qui parle, en fait, qui ne soit pas juste de l'image, mais qu'on puisse reprendre. Moi, c'est ce qui me plaît aussi dans l'objet du magazine, c'est que c'est quelque chose qu'on peut lire à un moment, reposer, oublier, reprendre, donner.
Et oui, et puis chaque moment de lecture, du coup, a son intérêt pour un moment du magazine.
Tout à fait.
Revue réunit donc des acteurs et des actrices de la création. La revue, dans son format historique, arrive dans l'art, il me semble, dans la fin des années 60-70. Je parle des revues d'art. Et dès le départ, les revues sont le médium qui permet les rencontres qui ne se passent pas dans les musées, dans les galeries d'art, et font se côtoyer des peintres, des poètes, des auteurs internationaux. Donc, on passe les frontières. Le numéro 16 que j'avais entre les mains, donc, en préparant l'émission, fait se rencontrer, par exemple, une série photo de Tom Blech, un entretien des designers et directeurs artistiques M.M. Paris, ou une interview à propos du cinéma de Dario Argento. Elle est très présente, cette première définition de la revue, finalement. C'était l'enjeu au départ?
Tout à fait. En fait, on a une tagline pour définir revue qui est conversation et esthétique. Et en fait, on avait vraiment envie de parler d'esthétique, donc du coup, dans le sens philosophique du terme. Et puis la conversation, c'est vraiment ce qu'on est en train de faire là, c'est de pouvoir échanger et d'apprendre des choses. Moi, ce qui me plaît en tant que rédacteur en chef, c'est de continuer à apprendre, en fait, et à découvrir des nouveaux artistes. Et surtout, le rôle de rédacteur en chef, pour moi, c'est une position privilégiée, puisque ça me permet de rencontrer des artistes et de comprendre un peu mieux comment ils travaillent. Ce qui, pour moi, en tant qu'artiste, est d'une richesse inouïe, parce que je me rends compte que ma manière de faire est particulière. Parfois, je cultive cette différence. Parfois, je me dis, ah, il faudrait que je m'inspire un peu de tel ou tel artiste parce qu'en fait, il a trouvé quelque chose que je trouve assez brillant. Donc, c'est vraiment une double fonction pour moi, une double qualité.
Mais cette question de l'esthétisme, elle revient... j'ai l'impression une notion qui revient souvent dans ton travail aussi plastique, donc d'artiste, puisque... tu affirmes quelque part ton travail d'artiste par le biais de l'esthétisme et non que du concept. D'ailleurs, ta série sur les drapés en est le résultat, en tout cas celui d'une recherche en cours. Tu as dit dans ton entretien pour le podcast Le Bruit de l'Art que tes pièces ne reviennent pas sur la forme parfaite, mais la forme juste. De la même manière, le numéro 16 de revue, toujours le même que j'avais avec moi, revenait sur cette question de l'esthétisme et de la cohabitation des formes et de ce... presque toujours plus. N'est-ce pas cette question du maximalisme, le fil conducteur de ton travail depuis le départ et jusqu'ici?
Peut-être. En tout cas, je sais que mon travail d'artiste me permet d'aborder différentes thématiques, mais qu'il s'épanouit dans ce travail que tu viens de nommer de sculpture drapée, en fait, depuis des années maintenant. Et c'est un travail effectivement qui questionne le devenir décor de l'art, en fait. Il y a quelque chose qui est effectivement très séduisant, très beau, la notion de beauté qui, quand j'étais moi-même étudiant, était extrêmement mal vue dans le monde de l'art, qui aujourd'hui est un petit peu réappréciée, mais c'est vrai que quand c'est beau, en fait, c'est douteux. En fait, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Et moi, je pense qu'aujourd'hui, la beauté, c'est quelque chose d'important, que la beauté peut être politique, que la beauté peut être militante, et que c'est quelque chose qu'on doit cultiver, que ce soit par l'art, que ce soit par la conversation, que ce soit par la rencontre. Donc, le maximalisme, c'est quelque chose qui me plaît, même si, au final, quand on regarde mon travail d'artiste, il est plutôt dans une forme minimale, puisque les éléments sont assez réduits. On a une barre de métal et une impression de tissu. Par contre, le maximalisme, je m'y retrouve dans mon appétit pour les choses qui m'entourent, en fait. Je peux aimer des choses qui sont très, très variées. Et c'est ça, c'est en ça que Revue, c'est génial, parce que ça me permet de montrer plein, plein de choses différentes.
Je voudrais te poser quelques questions où tu vas répondre assez vite. Mm-hmm. Comme ça, on se fait un petit quiz interview. Ok, c'est okay. Bon pour toi.
Ok.
La première question que tu poserais à Brian De Palma.
Quelle est votre idole ?
La conversation que tu aurais aimé ne jamais avoir ?
Ça n'est jamais arrivé pour l'instant.
Une phrase que tu as toujours en tête ?
Je n'en ai pas.
T'en as pas ?
J'ai trop de choses en tête.
Une discussion dans un film qui t'a marqué ?
Je sais pas. C'est vrai que c'est très difficile de répondre comme ça. Je suis rarement interviewé. Victoire, tu
ouais.
me colles.
Je te colle.
Ouais.
Et je sais pas, un film que t'aimes bien, de bref, je sais pas.
Alors, je pense que l'un de mes films préférés, je peux citer en fait tout Brian De Palma, je peux citer tout Hitchcock, qui sont vraiment.
Parce que c'est
pour
vrai
moi.
Que la scène pour laquelle tu m'as envoyé ce son tout à l'heure, la BO, il y a vraiment aucune conversation dans cette scène.
Exactement.
Donc c'est plutôt les scènes où on ne parle pas alors.
En tout cas, c'est une scène qui est extrêmement lyrique. Elle dure 6 minutes, un peu plus de 6 minutes. Donc en fait, c'est un travelling qui est absolument ouais. Passionnant. Mais, ouais.
Et une réplique de film sinon que tu connais par cœur ?
Ah là
t'en
là,
pas
là, non,
moi, il y en a une
pas.
Que j'adore, mais que j'adorerais connaître par cœur. Enfin, je la connais un peu par cœur, mais c'est une scène de Domicile conjugal. Où Jean-Pierre Léaud, donc, qui interprète Antoine Doinel, dit à sa femme, interprétée par Claude Jade, quand on s'ennuie, moi je ne sais pas ce que c'est que l'ennui. L'ennui, j'en ai entendu parler. Je sais qu'il y a des gens qui s'ennuient, mais moi je ne sais pas ce que c'est que l'ennui. Il y a toujours quelque chose à faire. Je ne sais pas, on peut découper les pages d'un livre, on peut faire des mots croisés, ou on peut prendre des notes. Il y a toujours quelque chose à faire. Je voudrais que les journées aient 30 heures, tu vois, parce que je ne m'ennuie jamais, tu comprends. Et puis même mieux, j'ai hâte d'être vieux, tu vois, pour pouvoir me contenter de 5 heures de sommeil par nuit.
Écoute, je me reconnais tout à fait. C'est très bien choisi.
Donc toi, tu t'es jamais ennuyé ?
Jamais. J'ai toujours quelque chose à faire et j'ai toujours envie de faire des choses, ce qui est un peu fatigant. Mais l'ennui, j'aspire à l'ennui, mais trop occupé à penser au prochain numéro, prochaine rencontre, prochaine exposition.
Tu parles dans une, il me semble, dans une interview de la question du plaisir de conserver, du plaisir dans ce que l'on fait et à quel point le plaisir permet aussi d'impulser des projets. Comment on conserve du plaisir à faire ?
En fait, je pense qu'il ne faut pas avoir peur de changer. Quand on commence un travail comme un magazine ou un travail artistique, on a souvent tendance à se mettre des règles. C'est souvent des choses qu'on fait seul ou avec une petite équipe dans le cadre du magazine. Donc du coup, on a besoin d'un cadre. Et c'est vrai que ce cadre peut vite devenir contraignant parce qu'on a peur de perdre les gens. On a peur de se dire « Ah là là, si tout d'un coup, je fais quelque chose de différent, les gens ne vont pas comprendre. » En fait, je pense qu'il faut vraiment sentir un peu ce qui nous entoure et se dire que si jamais on doit changer de format, changer de style de travail, expérimenter, il faut le faire en fait. Il ne faut pas avoir peur de décloisonner. Ça, c'est une des choses que j'ai appris lors des conversations de Printing Fashion en fait. Ne pas avoir peur tout d'un coup de changer.
Ils sont prévus pour quand ? Alors, les nouveaux volumes de Printing Fashion et Revue, tu me disais que Revue partait aujourd'hui même à l'impression.
Exactement. Revue 16 est toujours disponible sur notre site internet et chez KD Press et puis aussi chez vos libraires préférés. Et là, Revue 17 qui est un très beau numéro part aujourd'hui même. Donc, ça devrait arriver d'ici 5 semaines. et Printing Fashion, puisque nous avons fait avec Marco les rencontres il y a à peu près 15 jours. Nous allons avoir le numéro 2025, donc en mai prochain. Mais avant cela, nous aurons le témoignage de Printing Fashion 2023 qui était dédié à la notion de résistance. On est également en train de finaliser ce numéro qui sera prêt en mai. Donc dans un mois en fait.
Très peu de temps, donc tout arrive très peu de temps, tout arrive en même temps.
Exactement, en mai vous pouvez avoir Revue 17 et Printing Fashion numéro 4.
Merci Justin Morin.
Merci beaucoup.
La matinale 9h15-10h, c'est tous les mercredis en direct sur Dieu Radio. La semaine prochaine, nous recevrons Pascal Montfort, historien de la mode, fondateur du cabinet REC Trends Marketing et de la librairie Ephemera, qui a ouvert ses portes le 26 février dernier. Merci de nous avoir suivis et rendez-vous le 17 avril.
La matinale sur l'actualité de la création contemporaine par Victoire Lebars.